Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Après le Salon du Livre de Montréal au Canada, nous voici en France, à la Maison de la Radio, pour l'événement Radio France Faites le Livre, avec un public très nombreux, dont 150 lycéens. Bonjour à tous, bonjour Paris. Très, très en forme. C'est l'invité d'honneur de cette sixième édition de Radio France Faites le Livre, un fidèle ami de l'émission immortelle de la librairie francophone, Dany Laferrière de l'Académie française, que vous pouvez applaudir également. Là, c'est fan, Dany. Bonjour, Dany.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Eh bien, ça va bien. Je suis en de bonne main. Je vois bien qu'il y a un public absolument enthousiasmé.
Je crois que vous battez aujourd'hui le record de présence dans cette émission, tous auteurs et artistes confondus. Merci d'être avec nous. On va parler de l'un de vos romans qui vient d'être réédité chez Zulma. Et puis, il y aura des rencontres, notamment avec le grand Henri Dess, qui vient spécialement de Suisse pour nous. Il est très rare dans les médias. Vous pouvez applaudir. Henri Dess est avec nous. Bonjour. Merci. Henri Dess. Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Vous êtes auteur, chanteur, culte pour les enfants. Vous connaissez Dany Laferrière ?
De loin.
De loin, là vous l'avez de près.
De près maintenant, oui.
Rencontre inédite et exclusive entre Dany Laferrière et Henri Dess tout à l'heure. Avec nous également deux écrivains tunisiens publiés par les éditions Elizade. Formidable éditeur, Yamen Manaï, qui vient d'obtenir le prix des 5 continents de la francophonie, et Ali Becher, qui raconte une partie de l'histoire de la Tunisie dans son nouveau roman. Il sera aussi question du nouveau tome de la BD du Chat du Rat avec Johan Sfar. Bonjour Johan.
Bonjour.
Comment allez-vous Johan Sfar? Merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup d'activités à Radio France Faites le Livre. On en touchera deux mots tout à l'heure. Le groupe Lojo est aussi sur la scène du studio 105 ici à Radio France pour un titre de son nouvel album en acoustique.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et Dany Laferrière, je vous donne une première mission. Donnez à Johan Sfar la mission... de dessiner pendant l'émission. Dessiner une idée ou un mot que vous devez choisir.
Ah, je choisis un
mot. Oui, ou une idée. Vous avez deux minutes pour réfléchir. Oui. Même pas, 10 secondes. Je présente les libraires. Vous savez qu'on a des libraires.
Ah, bien sûr, je les attends de pied ferme. Ce sont des lecteurs.
Exactement.
Avertis.
Exactement. Pour représenter la Belgique, il y a Annick Dor à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. En Suisse, c'est Claire Renaud de la librairie Atmosphère à Genève. Au Canada, c'est Marie-Ève Blé de la librairie Le Guélion à Montréal. On a des petits problèmes de liaison avec Montréal. On va voir si ça s'arrange. Et en France, c'est Grégoire Courtois qui est de tous les voyages. Après Montréal, il est en plateau ici avec nous. Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel.
Ça va, vous êtes avec moi depuis une semaine maintenant.
Bah ouais.
Vous ne nous quittez plus.
On est un peu des rockstars dans les avions.
C'est ça. Dany Laferrière, alors une petite idée, un mot pour Johan.
Hamac,
oui.
C'est très agréable à décider, j'espère qu'on ne va pas s'endormir, je vais essayer.
C'est l'idée générale, hein, Johan, hein. Vous faites ce que vous voulez. Allez, Dany Laferrière, vous connaissez dans tous nos libraires.
Alors, parce que ça me fait toujours penser à l'adolescence. Oui. C'est long, c'est mou, mais en fait, c'est très solide.
Ouais, ça donne des idées pour Johan. Bon, les libraires, deux libraires ont lu votre roman Le goût des jeunes filles, paru chez Zulma. C'est un livre paru en 2005, hein, chez Grasset. Pourquoi le rééditer? Vous l'avez un peu réécrit. Il y a une rumeur en ce moment qui dit que Dany Laferrière, depuis qu'il est entré à l'Académie française, il réécrit tous ses anciens livres.
Oh ben bien, un peu avant, parce que moi je viens du Canada, je viens du Québec, c'est un pays avec un univers très long, on passe son temps à tricoter et à retricoter. Alors c'est ce que je fais, j'ai tricoté mes romans et maintenant, comme il fait froid, hiver, alors je retricote.
Ah c'est ça, oui, donc vous réécrivez un peu.
Oui, j'ai réécrit beaucoup même.
Ah, oui.
Par exemple, ce livre, je pense que j'ai ajouté 120 pages hein,
ah, carrément,
de
oui.
plus. Yeah, man.
Dans ce roman, alors justement, vous évoquez votre mère, vos tantes, une voisine et ses copines. C'est plein de filles. Le narrateur, vous, sans doute, a 15 ans. Et en un week-end...
Mais je voyais que ça à 15 ans. Je voyais que des filles.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Autour de vous, il y avait des filles.
Je me tenais à la fenêtre de ma chambre en haut, à l'étage. Je ne voyais que ça. Et juste en face de chez moi, il y avait une nuée de jeunes filles. Elles étaient toutes les plus. Mais c'était très, très, très vivant comme situation. Je les voyais sortir, danser, manger, monter des voitures, descendre des voitures. Et moi, j'avais à préparer mon examen d'algèbre.
Et vous arriviez à vous concentrer quand même.
Non, je me concentrais pas. Je passais mon temps à la fenêtre. Sinon, je suis couché sur le dos, je regarde le plafond en rêvant.
Bon, les copines de Mickey sont des petites allumeuses, mais il y en a une qui va écrire son journal et qui va nous raconter le gouffre entre les classes sociales en Haïti. Parce que c'est ça le sujet de votre livre. Oui, c'est un livre social.
C'est un livre très social, mais en même temps, j'ai voulu mettre les jeunes filles en avant parce que je ne veux en aucun cas que la politique bouffe tout. Et je déteste la monoculture, je déteste qu'on ne pense qu'à une chose. Et c'est exactement le but de la dictature, c'est de faire du pays une sorte de grande monoculture et de l'injustice. Alors j'ai voulu toujours mettre la vie en avant. Donc ces jeunes filles, malgré le fait que ce soit un roman extrêmement politique, elles sont en avant parce qu'elles sont au cœur de la politique.
Vous confiez au début du roman « Aimer lire votre courrier dans votre bain ». Vous l'avez dit plusieurs fois. Non, plusieurs
oui,
fois,
je fais tout dans ma baignoire, je fais tout. Il m'arrive même de me baigner.
De vous baigner. Oui, de vous laver.
Oui.
Vous dites vous considérez comme un être aquatique.
Ben oui, mais je pense qu'à peu près tout le monde. Il y a beaucoup d'eau en nous. Hein.
Oui, c'est vrai.
On est liquide et aquatique.
Il y a Gégé dans votre livre aussi. C'est votre Gégé. Meilleur ami. C'était vraiment votre meilleur ami à l'époque,
lui ? Enfin, meilleur ami, mais c'est lui qui prenait tous les risques. Et on a toujours un ami qui nous apprend le sens de l'aventure. Moi, je suis celui qui se tient un peu à côté de tout, à côté de la vie. Et c'est pour cela que j'observe assez pour écrire. Vous savez, celui qui n'est pas dans l'affaire. Gégé, par exemple, toutes les filles les mêmes, je ne lui ai jamais dit cela. Et 30 ans plus tard, quand j'ai écrit ce livre, il m'a consulté pour savoir mais comment ça se fait que je ne savais pas que j'étais aussi aimé des filles. J'ai dit, mais je ne vais quand même pas te le dire en plus.
Oui, ça suffit.
Ça suffit. Oui, parce que ça, c'est le carburant de l'écriture,
vous dites
la frustration.
Chaque jour, il a inventé un jeu plus dangereux que celui de la veille.
Oui.
Quel est le jeu le plus dangereux auquel vous avez assisté ou participé ?
Ah ben c'était le train. On allait sur les rails de train, on se couchait et puis on se levait au dernier moment, dernière minute. Il fallait que ce soit vraiment, vraiment à la dernière minute. Et chaque fois, lui, il restait plus longtemps que tout le monde.
Ne jamais faire ça, on a des lycéens dans la salle.
Ils ont d'autres jeux plus dangereux.
Ah, vous croyez, vous. C'est vrai qu'un jour, il y a un tonton Makout qui vous poursuit, enfin qui vous invite à boire un verre au départ. On ne sait pas vraiment ce que c'est hein, dans le livre, si c'est pour vous ennuyer, pour avoir un rapport sexuel
ou... Mais on ne sait jamais avec les tontons Makout. Ouais. Les tontons Makout, c'est les sbires du gouvernement, de la dictature. On ne sait jamais avec eux parce que, précisément, leur humeur est tellement fébrile et ça change l'atmosphère même de la ville quand il y en a 300 000 comme ça dans une ville, d'individus armés dont on n'est pas très sûr de leur capacité de penser. Et c'est très volatile, c'est très rapide. Il faut être vraiment vif pour survivre dans une telle jungle.
Il a essayé de vous tuer, hein, vraiment. Il voulait vous tuer.
En fait, oui, il aurait pu m'oublier aussi, à la seconde même, mais il a essayé de me tuer, Gégé lui a réglé son compte. En fait, c'est ce que je croyais.
Oui, c'est ce qu'on croit, c'est une histoire aussi dans le livre. La Belgique ou la France, on commence par qui ? Quel libraire ?
Ah ben la Belgique, bien
la
sûr.
La Belgique, Annick Dor, qu'avez-vous pensé de ce roman, vous ?
Ah ben c'est un très bon livre, mais j'ai préféré quand même d'autres de vos romans que celui-ci. Entre autres parce que j'ai pas trop accroché avec les parties dialoguées. Ceci dit, voilà, il y a néanmoins des aspects très réussis. On retrouve l'atmosphère contrastée d'Haïti. Moi, j'ai été séduite aussi par des personnages vraiment hauts en couleur. Et sans oublier votre don pour les expressions, dont celle-ci que je trouve tellement juste, c'est quand on n'a rien à faire que le temps est précieux.
C'est vrai. Oui.
Mais pour les dialogues, il faut quand même le dire. En Europe, on n'aime pas les dialogues parce que c'est les monologues, les livres. C'est vrai, quand on regarde les séries américaines, c'est le seul endroit au monde où le personnage croise un autre et lui dit bonjour. Personne n'a jamais écrit bonjour dans un roman européen.
Grégoire Courtois, vous avez aimé ce roman, vous, pour la France.
Oui, c'est un roman qui est très tonique, percutant. Là, Annick vient de parler des personnages. Effectivement, ils sont tous absolument incroyables. Et effectivement, Emmanuel, vous l'avez dit, ce sont quasiment tous des femmes, toutes des femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on a un débat sur la place de la femme dans la littérature écrite par les hommes, et je trouve que Dany Laferrière, 25 ans en arrière, déjà donnait une leçon à tout le monde en mettant la femme au premier rang.
Oui, dans tous mes livres d'ailleurs, que ce soit de ma grand-mère et jusqu'à la toute jeune fille de 15 ans, j'ai fait le spectre et total et de toutes les humeurs aussi, de toutes les sensations, de toutes les émotions.
Toutes les sensations. Il y a d'ailleurs une scène très érotique dans ce roman avec
Mickey. Ah, il faudrait que je le lise. Hein.
Non, la jeune voisine de 20 ans, 5 ans de plus que le narrateur, 5 ans de plus que vous. Oui. Érotique mais littéraire, rassurez-vous, j'en dis pas plus, mais en même temps, pour vendre ce livre aux lycéens qui sont dans la salle, je pense que c'est un bon argument.
Oui, vous savez, l'érotisme, c'est toujours quelqu'un qui veut faire quelque chose et un autre qui semble résister.
Voilà, le livre de Dany Laferrière, Le goût des jeunes filles, aux éditions Zulma. Dany Laferrière, merci beaucoup, Dany. Vous restez merci. Bien sûr avec nous. Vous êtes l'invité d'honneur de Radio France Faites le Livre ce week-end et invité d'honneur de la librairie francophone Dany Laferrière de l'Académie française. Coup de projecteur à présent sur un éditeur cette semaine. Les éditions tunisiennes Elizade publient des romans formidables. La preuve, celui de Yamen Manaï, qui vient d'obtenir le prix des 5 continents de la francophonie. Bonjour Yamen Manaï.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes né à Tunis en 1980, vous êtes donc un jeune auteur, et vous venez de décrocher le prix des 5 continents. On vous a remis ce prix à Francfort, il y a un mois, j'étais là d'ailleurs. Votre roman Lama Ardent a séduit un jury prestigieux, et vous abordez avec humour l'arrivée des fanatiques en Tunisie. On peut donc en rire de ça.
Je pense qu'on peut rire de tout, en effet, et surtout dans des contextes qui peuvent être très graves. Je pense que l'humour est une arme qui peut dépasser justement les fanatiques et qui peut fédérer le plus grand nombre de personnes. Et moi, je me rappelle avoir vécu également dans l'époque de Ben Ali en Tunisie, où le seul sas de compression qu'on avait, c'était toutes les blagues qu'on pouvait raconter sur lui et sur sa belle famille. C'était la seule façon pour nous d'appréhender et de toucher du doigt certains sujets. Et ça dépasse le cadre politique, mais pour toucher tout ce qui est tabou.
Il y a le prince du cafard dans votre roman, le prince du cafard, qui va tenter de mettre la main sur la Tunisie pour s'octroyer ses richesses naturelles, du gaz et du pétrole. Notamment, il arrive chargé de denrées et de vêtements pour que le parti islamiste puisse les distribuer aux populations pauvres et aussi pour les faire voter, en fait, les faire voter pour eux. Mais dans cette cargaison, il y a un nid de frelons asiatiques. Et votre livre, c'est un conte, c'est une métaphore en fait. Les frelons asiatiques qui attaquent les abeilles face aux islamistes qui, eux, attaquent les paysans.
Oui, en fait, ils attaquent une population qui n'est pas armée, comme les frelons peuvent attaquer les abeilles. Alors, l'idée du livre m'est venue d'une anecdote d'un potier bordelais qui avait importé en France des pots de Chine. Et en fait, il l'a découvert en ouvrant les pots qu'il y avait un nid de frelons asiatiques qui est venu de la Chine, donc qui a fait le voyage en avion dans le pot. Et en fait, ce frelon-là asiatique aujourd'hui colonise tout le sud-ouest de la France et remonte même dans des régions où il n'est pas forcément le bienvenu. Et il est un prédateur redoutable des abeilles européennes parce que les abeilles européennes ne le connaissent pas.
Ouais, alors c'est vrai que votre personnage principal est un apiculteur tunisien. Il nous apprend beaucoup de choses sur les abeilles. Le frelon asiatique est la plus grosse espèce de frelon au monde. Avant d'attaquer les ruches, il envoie toujours un éclaireur.
Oui.
Et il y a une histoire absolument géniale.
Alors en fait, l'inspiration complète du livre m'est venue quand j'étais en train de regarder un documentaire sur National Geographic où j'ai vu justement ces frelons géants se prendre à des ruches. Et le commentateur du documentaire a expliqué qu'il y a des abeilles qui arrivent à se défendre contre ce frelon-là. C'est les abeilles japonaises parce qu'elles ont côtoyé le frelon asiatique pendant des millions d'années et elles ont réussi à comprendre sa faiblesse. Là où une vingtaine de frelons géants peuvent anéantir une ruche de 40 000 abeilles. Quand ces frelons prédateurs viennent attaquer une ruche d'abeilles japonaises, les abeilles japonaises ont une technique de défense que moi j'ai appelée dans le livre « Lama Ardent » et qui en fait consiste à une solidarité sans faille des abeilles face à cet agresseur. Concrètement, comment ça se passe? Les abeilles couvrent le frelon asiatique, font monter leur température à un certain degré que le frelon ne tolère pas et du coup, elles le rôtissent par une sorte de montagne qu'elles font au-dessus de lui.
En fait, elles vibrent autour de lui pour faire monter la température à 45 degrés. Les abeilles supportent 48 degrés, donc elles battent des ailes comme ça, toutes serrées, autour de lui par centaines.
Oui.
Le frelon cuit, en fait.
Oui, tout à fait.
Et une fois qu'il est rôti, elles s'en vont.
Elles le dégagent de la ruche, elles le sortent.
Mais c'est une histoire vraie, c'est vrai, c'est la nature.
Oui, tout à fait. Vous pouvez le voir sur YouTube, vous tapez Giant Hornets versus Japanese Bees, ou vous tapez frelon géant.
C'est pas francophone, ça.
Contre l'abeille. Bah, oui, parce qu'en fait, des fois, on n'arrive pas à trouver forcément toutes les séquences en français. Donc, vraiment, ça existe et c'est formidable.
Ouais, ça fait rire Henri Dess. Hein, ça peut faire une histoire pour enfants, ça, Henri.
Ça pourrait, mais comme je n'écris pas des chansons comme ça, ça ne pourrait pas, pour moi.
Il faut que ce soit joyeux.
Mais c'est très intéressant de voir ces abeilles qui font cuire le frelon.
C'est génial. Alors, il y a un libraire qui a lu votre roman, Yamen Manaï. Elle est en Suisse et elle s'appelle Claire Renaud. Claire, qu'avez-vous pensé de ce livre?
Alors, d'abord, j'ai été surprise par votre style narratif. Puis très vite, j'ai été embarquée par ce conte Votre sens de l'humour, très jouissif à des moments, amène de la légèreté à ce roman, comme ce pays imaginaire et désordonné comparé au Japon paisible et serein. Bref, c'est une jolie fable poétique qui m'a fait penser à Candide de Voltaire.
Ah, carrément, Candide de Voltaire. Voilà, Yamène Manaï, que vous pouvez applaudir. Lama Ardent, prix des 5 continents de la francophonie. Yamène, vous tournez à la dérision la politique tunisienne, ces fanatiques qui tentent de prendre le pouvoir dans ce roman. Ben Ali, surnommé le Beau, est un ringard en exil, je cite. On va parler tout à l'heure, en fin d'émission, avec Ali Becher de la Tunisie. On va continuer, on donne un coup de projecteur aux éditions Elizade aujourd'hui, car vraiment, c'est une maison d'édition formidable. On continue à parler Tunisie avec Ali Becher dans quelques minutes. Vous restez avec nous, Yamène Manaï.
La librairie francophone.
Chez les Juifs, on n'aime pas trop les chiens. Un chien, ça vous mord, ça vous court après. Et ça fait tellement longtemps que les Juifs se font courir après ou aboyer dessus que finalement, ils préfèrent les chats. Enfin, pour les autres Juifs, je sais pas, mais mon maître, lui, il dit ça. Mon maître, c'est le rabbin Sfar. Moi, je n'ai pas de nom, mais sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin.
Emmanuel Kérad.
Johann Sfar est dans la librairie francophone pour sa nouvelle bande dessinée, Le chat du rabbin, tome 7. Vous êtes à Radio France, faites le livre, Johann, pour une carte blanche. Dany Laferrière vous a donc donné une mission tout à l'heure, dessiner autour du mot hamac.
C'est fait.
Qu'est-ce que ça donne? Montrez-nous ça.
J'ai dessiné mon chat dans un hamac qui se demande si c'est épuisant de dessiner un hamac. Parce que même si on dessine un personnage qui se repose, il y en a un qui travaille, c'est le dessinateur. Voilà, je vous l'offre.
Bah, merci beaucoup, Johann. On va prendre ce dessin en photo. On va le mettre évidemment sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse voir. Regardez, Dany, magnifique.
Ouais,
est-ce
magnifique.
Épuisant de dessiner un Mac point d'interrogation, et c'est le chat du rabbin. Merci beaucoup, Johann. Alors, vous êtes dessinateur, auteur et réalisateur niçois, cher compatriote. Vous publiez vos premiers albums dans les années 90, célèbre pour Le chat du rabbin, qui s'est quand même vendu à plus d'un million d'exemplaires. Vous célébrez finalement tous les courants religieux avec cette BD, l'athéisme inclus, petit blasphème inclus, et vous dites que aujourd'hui la religion est trop utilisée pour créer de la haine. Du coup, ça abîme vos souvenirs.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je crois qu'il faut sacraliser nos souvenirs maghrébins, d'abord parce que pour certains d'entre nous, on vient du Maghreb, mais ensuite parce que dans le Maghreb, il y a la clé à tous les problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Le Maghreb que je mets en avant, c'est un Maghreb mélangé, cosmopolite, avec des disputes qui n'interdisent pas de manger ensemble. Et j'ai le sentiment qu'à force d'écarter les problèmes du Maghreb et de les mettre dans le Golfe, on a oublié où était notre relation à l'Orient d'un côté, au monothéisme de l'autre, et une façon d'interagir. Je prétends pas que c'était le paradis, le Maghreb, loin de là.
Ouais.
Mais j'essaye de recentrer sur le Maghreb toutes ces problématiques.
Le chat du rabbin, en tout cas, s'autorise tout. Et il est là aussi pour éveiller les consciences. Est-ce qu'il est là aussi pour adoucir un peu les concepts religieux ?
Il est très enfantin, il se comporte comme les valets dans les récits de Molière ou dans la Commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'il va mentir quand il ne faut pas, il va dire la vérité quand il ne faut pas, et il ne va jamais s'interdire de dire quelque chose, même si ça lui attire des soucis.
Alors dans le nouveau tome, la mosquée est inondée. Des chatons fuient vers le domicile du rabbin. Le chat du rabbin leur ouvre la porte, mais il est hors de question de les accueillir, car, dit-il, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Il dit plus exactement, on ne peut pas accueillir tous les ronrons du monde.
Oui, c'est
parce
ça.
Que, comme tous les animaux, à la base, il est d'extrême droite. Il défend son territoire.
Pourquoi comme tous les animaux ?
Parce que c'est le principe de l'extrême droite, c'est
de
se comporter comme des animaux. Et petit à petit... Moi, je veux pas mettre en scène un chat qui se comporte bien, parce que sinon, tous les lecteurs potentiels d'extrême droite vont pas m'acheter. Ça, c'est quand même dommage, parce que ça représente beaucoup de monde. Je souhaite que le chat se comporte aussi mal qu'eux, et qu'au bout d'un moment, il apprenne un peu.
Bon, en tout cas, il y a le rabbin, lui, qui va accepter d'accueillir les fidèles musulmans pour la prière, à la demande de l'imam. Mais c'est pas du goût de tout le monde, jusqu'au moment où la synagogue elle-même prend l'eau. Et là, il ne reste que l'église pour se réfugier.
Oui, j'ai essayé de montrer. Un rabbin, un curé, un imam qui font de leur mieux, mais les fidèles ne veulent pas. Ils ont envie que tout le monde prie au même endroit, ils organisent tout et personne ne vient. Et devant le temple, on trouve des juifs et des musulmans qui ont créé le parti des juifs et des musulmans qui refusent de prier ensemble. Ouais. Et ça, ce serait le parti le plus nombreux. Et ce que j'essaye de raconter, c'est que dans chaque groupe humain, les extrémistes se ressemblent beaucoup et répètent un peu les mêmes bêtises. Et si on parvenait à réaliser un peu l'union sacrée de ceux qui crient le moins fort dans chaque camp, ça irait un peu mieux.
En tout cas, vos personnages, Johann Sfar, sont complètement timbrés. Il y a l'imam de l'imam, parce qu'il y a l'imam de l'imam, le rabbin du rabbin. Les deux se rencontrent, ils vont partager cette idée. Ils disent, si des gens ont envie de prier au même endroit que nous, ils n'ont qu'à se convertir à notre religion. Et l'autre répond, cher ami, je partage toutes vos idées, quel dommage que nous n'ayons pas la même religion.
Oui, c'est un peu les deux méchants, ils sont réacs, ils sont contre tout, ouais. Mais ils s'adorent. Et à un moment, ils disent, faites attention, si on nous voit ensemble, on pourrait croire qu'on est amis.
Ouais, c'est ça. Mais rester chez soi, comme ils disent, cultiver ses différences. Il incite à cultiver ses différences. Ça arrange les religieux, ça?
Aujourd'hui, la religion est réduite à son volet identitaire, c'est-à-dire comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu manges, tout ça. Il me semble qu'il vaut mieux mettre en avant le chemin intime de chacun, parmi lequel, vous avez raison, l'athéisme constitue la communauté la plus nombreuse et la plus maltraitée de nos jours. Et si la religion retourne vers l'intime et cesse de se transformer en politique, je crois qu'on se portera tous beaucoup mieux.
Le chat du rabbin est très philosophe, figurez-vous. Il y a un passage très drôle au début de la BD, quand il tente d'éduquer un bébé à la religion. Il lui dit... En substance, enfin, j'ai résumé hein, parce que ça dure sur deux planches, et lui dit « Moi chat, moi mignon, ronron ta gueule. Écoute bien comment le piège va se refermer sur toi. Un jour, ils vont t'apprendre à remercier Dieu avant de bouffer. Un jour, on te racontera des fables à dormir debout. » Et il développe comme ça, etc., etc. Et il dit au bébé « Fais attention, tu vas droit dans le mur. »
Alors, j'essaye de traiter ce moment où on ne sait pas encore qu'on fait partie d'une religion. Vos parents vous racontent ça et ça vous semble complètement extravagant, enfin à peu près autant que quand on vous parle du Père Noël la première fois. Puis il y a un moment maudit où vous allez dire « Ça, c'est moi. »
Ouais.
Et je trouve ça dommage. Je préfère dire « Je connais un peu de judaïsme, je connais un peu d'islam, je connais un peu de christianisme et je joue avec tout ça. » Mais dire « ça, c'est moi », c'est transformer le sacré en équipe de foot et c'est un peu dangereux.
Le mot de la fin de votre entretien, en tout cas, Johann Sfar, c'est avec un libraire, avec la Suisse et Claire Renaud, qui a lu aussi, elle avait beaucoup de boulot cette semaine, Claire, elle a lu « Le chat du rabbin », tome 7. Claire.
Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cette bande dessinée. Hein. Comme
merci.
D'habitude, votre dessin m'a fait rêver et m'a fait voyager. Magique, sarcastique et réaliste, c'est un nouveau volume très réussi.
Merci beaucoup Claire, merci Johann Sfar.
Merci.
On va vous libérer car vous avez des signatures ici. Le chat du rabbin tome 7 est paru aux éditions d'Argo. Johann Sfar que vous pouvez applaudir. Merci Johann. Et le groupe Lojo est installé sur la scène du studio 105. Bonjour Denis Péan, où êtes-vous? Vous êtes tout au bout là-bas du studio, vous me voyez?
Bonjour, je suis derrière un grand piano.
Vous êtes installé au piano avec autour de vous les sœurs Nid El Mourid. Lojo est un groupe français originaire d'Angers qui a sillonné le monde pendant plus de 20 ans. Vous êtes connu partout et d'ailleurs votre nouvel album Phonetic Flowers a été enregistré un peu partout.
Effectivement, on a profité de la tournée. Du goût de l'aventure pour enregistrer un petit morceau de pandouri, cet instrument géorgien, dans un appartement à Tbilissi, enregistrer des percussions sur une terrasse en Louisiane, d'enregistrer un violon dans une chambre d'hôtel à Canton. Voilà, donc ce disque est voyageur, il est à la mesure de notre histoire qui est faite d'aventures, de kilomètres parcourus et d'humanité trouvée en chemin.
C'est toute l'histoire de Lojo. On va vous laisser donc vous préparer avec ce piano noir, piano à queue dans le studio 105 de la Maison de la Radio. Vous pouvez applaudir Lojo pour Radio France Faites le Livre. Lojo pour Radio France Faites le Livre dans la librairie francophone.
Je vous chante ma monture excentrique par des quartiers toujours plus magnifiques. J'allais étaler mes couronnes de musique, m'écarter mes bagages, gaspiller des étoiles. J'allais faner dans les rues mal famées. À sainte patience, patron des voyageurs perdus, je vends mes clés, mes partitions de perles. Laisse mes traces à son passage.
J'avais convoqué cohorte d'anges, cosmogonie rirait des ordres. J'avais le même âge dans toutes les capitales. Je sais, les hommes sont faits de failles, de fados. Les femmes portent des colliers de pas. Ah, sans patience, patron des voyageurs perdus, je vends mes clés, mes partitions de perles. Laisse mes traces à son passage. Chevauchant ma monture excentrique par des quartiers toujours plus magnétiques, j'allais arracher de sublimes dissonances comme un beau piano noir touché par la démence. J'allais faner dans les rues malfamées. Algérois, en picard, dans la rue avec sa honte et sa guitare, la cumbia, les cartomancies, ses armistices, ses recoins à crack. À sans patience, patron des voyageurs perdus, je vends mes clés, mes partitions de perles. Laisse mes traces à son passage.
Lodjo. Lodjo en direct du studio 105 de la Maison de la Radio avec un extrait de leur nouvel album. Merci beaucoup Lodjo, merci Denis Péan, installez-vous avec nous, rejoindre Dany Laferrière et Henri Dess pour parler de l'enfance. C'était Lodjo, mesdames et messieurs, live dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
La librairie francophone à la Maison de la Radio pour l'événement Radio France Fête le Livre avec l'invité d'honneur Dany Laferrière et le chanteur et auteur pour enfants, chanteur culte Henri Dess. Henri Dess, très très rare dans les médias. Merci beaucoup Henri d'être avec nous. Vous êtes le héros des enfants, le héros des parents aussi qui ont pu calmer leurs enfants ou bien ces parents qui connaissent vos chansons par cœur à force de les avoir écoutées dans la voiture ou ailleurs. Et vous avez une carrière exceptionnelle. Vous avez produit 36 albums, donné des centaines de concerts, dont 94 représentations à l'Olympia. 94 personnes jouent 94 fois.
94 personnes, 94 Olympia.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit 94 personnes, ça fait pas beaucoup.
Non, non 94 Olympia.
Olympia, oui. Avec 2000 oui. personnes par soir.
Non, je disais personne ne joue 94 fois à l'Olympia.
Voilà, c'est ça.
Oui. Alors en France et en Suisse, 23 écoles, 2 crèches.
Non, 32.
32 écoles ?
Oui.
Deux crèches, trois centres de loisirs, c'est ça ? Deux écoles de musique ?
Ah oui, si vous additionnez tout ça, ça fait...
Ah oui, c'est ça, j'additionne. Porte votre nom, Henri Dess.
Voilà, oui. Ouais.
Quel effet ça vous fait ?
Ça me fait plaisir.
Pas plus que ça ?
Non, c'est très étonnant. C'est la première fois qu'on m'a envoyé une lettre pour me demander si j'étais d'accord que mon nom paraisse sur le fronton d'une école, j'ai cru que c'était une farce, quoi.
Ouais.
Donc on s'est renseigné, on s'est aperçu que c'était pas une farce, et je suis allé pour l'inauguration de l'école, et après il y en a d'autres qui ont suivi... Et chaque fois, c'était une émotion assez intense, évidemment. Parce que les gens me choisissent moi plutôt que Jean de La Fontaine ou je ne sais pas qui. Puis je veux dire, je pensais que c'était des choses qui n'étaient pas réservées à des gens encore de ce monde. Je pensais que c'était des trucs comme ça pour
les
morts, pour les disparus.
Ouais.
Et c'est tombé sur moi et puis j'en suis très, très fier. Et
vous êtes très rare dans les médias. Alors tout ça sans communication médiatique quasiment, hein, parce qu'on ne vous voit jamais à la radio, à la télévision. Vous gardez une part de mystère comme ça, en tout cas une réserve.
Oui, mais j'ai beaucoup de plaisir à être chez vous. On rigole beaucoup ici, je trouve.
Bah, les émissions en public, on rigole toujours.
Oui, c'est ça.
Hein, surtout avec vos enfants qui sont là.
Un peu, je sais pas.
Ils sont là.
Ça sent un peu vos enfants. 150 lycéens dans le public, là.
Bah, je ne sais pas s'ils connaissent mes chansons, les lycéens d'aujourd'hui.
Ouais. Si, ah, si.
Vous connaissez? Bon, on va chanter, alors.
Cette reconnaissance est incroyable, elle s'explique sans doute par votre compréhension du monde de l'enfance. Vous dites « je suis un adulte qui comprend le monde des enfants et qui en parle ».
Oui, on me demande parfois si je suis un enfant. Il faut avoir une part d'enfance, évidemment, il faut avoir une part de fraîcheur. Mais c'est plutôt, je suis moi un adulte qui essaie de comprendre ce monde-là. Et je pense qu'on ne peut pas écrire des choses sur l'enfance si on n'est pas en face des enfants, si on n'a pas d'enfant soi-même. Je pense que j'aurais jamais fait ça, j'avais pas eu un môme. C'est mon fils qui m'a donné envie de faire ça. J'ai fait une petite carrière d'une dizaine d'années de chansons pour adultes, qui a marché moyennement, ça. Et puis un jour, avec mon petit bagage d'auteur, j'ai décidé d'écrire pour lui.
Et voilà. Puis ce sont des chansons, des histoires qui ne sont pas marquées par le temps. Et votre nouveau livre CD, Le Train Fantôme, en atteste une fois encore. C'est ça le secret, être intemporel, être universel, Henri Dess?
C'est-à-dire que je n'essaye pas d'écrire des choses qui sont marquées justement par l'actualité. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis très intéressé par la politique, je l'écoute, je vote, je m'intéresse à tout ça. Par contre, dans mes chansons, j'écris des choses qui sont simplement des petites chroniques de la vie des enfants, de leurs bêtises, de leurs petits soucis, leurs chagrins. Et je raconte un petit peu ça.
L'actualité des enfants.
Daniela Ferrière.
Vos petites chroniques forment l'actualité des enfants. Voilà, ils sont dans un monde aussi extrêmement organisé, avec leur politique particulière, leur actualité particulière.
Tout à fait.
Où le crocodile a une place importante.
Oui.
Le crocodile a une place importante. Vous êtes génial.
Mais
Dany anime l'émission avec moi aujourd'hui. Et en fait, il me fait la transition formidable, l'air de rien, puisque vous allez prendre un bain avec nous maintenant. Dany Ferrière, on vous a installé une baignoire. Non, je plaisante. Vous allez prendre un bain parce que vous aimez les bains. On va vous mettre un crocodile dans votre bain. Vous allez lire donc un texte d'Henri Dess qui figure sur le livre CD qui vient de sortir. C'est une surprise pour vous, Henri Dess.
Ah, ouais.
Voici Crocodile. Je vais vous faire signe, Dany. On va envoyer la musique. Crocodile, lu par Dany Laferrière de l'Académie française.
Je suis parti pour la ville, je suis parti ce matin faire les courses tranquilles, acheter presque rien, juste un petit crocodile pour mettre dans mon bain. Oui, mais les crocodiles, ça vous mange la main. Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain. C'est surtout inutile et c'est pas bien malin. Surtout si le crocodile veut te manger la main. Paraît que c'est difficile de s'en faire un copain. Mais s'il reste immobile, on est sûr de rien. On m'a dit qu'au Brésil, on en trouve tout plein. Mais pas dans les villes, ni dans les salles de bain. C'était mon copain, le crocodile. Un ami à qui je serre la main.
C'est une jolie surprise. Hein. Merci beaucoup.
Non, mais c'est l'ambiance totale.
En plastique, paraît-il que ça ne risque rien.
En plastique, paraît-il que ça ne risque rien.
Avec votre voix derrière, Henri Dess, votre voix, on avait mixé la voix, mais vous l'avez un petit peu mangé parce que vous avez parlé dessus, mais c'est pas grave. Voilà, Henri Dess, cette surprise de Dany Laferrière. Quelle est la meilleure façon de s'adresser aux enfants pour vous, Henri Dess?
J'en sais rien. Non, je sais pas, j'écris pas sur les idées. Je me dis pas un jour, voilà, je vais écrire une chanson sur ce thème-là. Jamais.
Jamais.
Ça part toujours de la musique. C'est la musique qui compte dans un premier temps. La musique amène quelques mots qui se marient ou pas avec avec cette mélodie. Et ces mots sont entourés d'autres mots, une sorte de fratrie. Et finalement, ça commence à me faire le tout début d'une idée.
Ouais.
Et c'est partir de là que ça commence. Donc, en fait, je ne sais jamais ce que je vais écrire quand je commence.
Dany Laferrière, vous avez écrit pour les enfants aussi « Je suis fou de Vava » en 2006.
Oh oui, mais je ne voulais
pas. Il s'en souvient plus.
Je ne voulais pas, parce que je crois pas à l'enfance. Je crois que c'est une chose qui continue complètement dans l'air et qu'elle va, qu'elle vient et qu'elle est toujours là ou jamais là. Il y a des enfants à chapeau, des gens qui naissent à 6 mois, ils ont un petit chapeau gris, ils sont là. Et d'autres qui continuent jusqu'à la fin.
Vous avez un chapeau aujourd'hui.
Oui. Mmh. Et tout à l'heure, j'entendais Henri Dess parler. J'ai pensé à un autre enfant. Lui, il avait un petit visage rond avec une cigarette au coin de la bouche. Il mangeait les mots. Il était là, il s'appelait Jacques Prévert. Et tout ce qu'il disait à propos des écoles, à propos du fait qu'il ne comprend pas pourquoi il y a 32 classes, et je sentais que c'était le cancre de Prévert qui parlait. Enfin, le cancre salué sur les frontons des écoles.
Oui, oui, c'est un peu ça.
Vous êtes un artiste multigénérationnel, Henri Dess. Il y a des jeunes parents aujourd'hui qui viennent vous voir avec leur progéniture. Ils vous ont écouté eux-mêmes et puis ils arrivent avec leurs enfants qui écoutent à leur tour vos chansons.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai en fait 3 générations parce que vu mon grand âge, ça me permet d'avoir 3 générations.
Alors, si je peux me permettre, vous faites très jeune, Henri. Hein.
Oh, vous êtes très gentil.
Non, mais vraiment. Hein.
Mais en fait, je suis très, très vieux.
Non, mais j'étais surpris en vous voyant arriver, parce qu'on entend parler de vous depuis tellement de temps. Ouais, quand vous êtes arrivé, j'ai dit, mais cet homme de 50 ans est incroyable.
50 ans, vous êtes très gentil. Mais...
Vous aussi, Daniela Ferrière, vous mettez en musique vos textes. Il y a une musicalité dans votre écriture.
Oui, oui.
Il y a un relief à chaque fois.
C'est vrai. Mais il n'y a que dans l'écriture. Sinon, je n'ai pas d'oreille, j'entends pas, je confonds Donat Sommer avec Mozart. Je ne comprends pas. D'ailleurs, les gens me demandent toujours, mais comment ça se fait que tu aies vécu 40 ans au Québec et tu n'aies pas pris l'accent? Mais je n'entends pas. C'est vrai, les gens me parlent, je vois, ils font des gestes avec leur bouche, mais je n'entends pas ce qu'ils disent. Je suis muré dans l'enfance. Mais il y a une musique intérieure. Il y a quelque chose qui bouge. Et la musique, quand je fais silence, je l'entends. Une phrase ne vit que si elle est rythme et émotion, donc musique.
Très bien. Une question pour Henri Dess, pour terminer, Dany.
Une question?
Oui.
Pas du tout, une réponse, simplement. Allez-y. Le remercier d'avoir illuminé toutes ses enfances.
Ben, merci beaucoup.
Henri Dess, mesdames et messieurs, Henri Dess, dans la librairie francophone. Oui, Henri.
Oui, je voulais quand même signaler quelque chose. Je viens ici aussi parce que je donne 5 représentations au Palace au mois de décembre. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en parler.
Allez-y, non, mais tout est libre ici, vous savez.
Pas. Oui, non. Bon, en fait...
J'allais parler voilà. De votre livre et de votre CD, mais...
Non, mais c'est très bien. Voilà, ben, je voulais quand même en parler un peu, parce qu'après, on m'aurait dit, tiens, t'as oublié ça. Et puis, il faut quand même le dire, 5 fois au Palace au mois de décembre.
Et il y a Annick Dor, notre libraire belge, qui veut s'adresser à vous. Annick.
Oui, mais c'est vrai que, oui, vous avez enchanté ma génération, et puis c'est vrai que mes enfants aussi chantent à tue-tête vos chansons. Alors c'est vrai que dans le disque là qui sort, on retrouve toute la fougue habituelle de vos chansons, un rythme cadencé, des petites percussions et autres sons rigolos, un cœur d'enfant toujours aussi, et puis des rimes amusantes, et puis un sens de la simplicité qui fait mouche, donc voilà, à tous les coups, ça séduit.
Très bien, merci beaucoup Annick. Chanson Fou Rire d'Henri Dess et le livre Le Train Fantôme d'Henri Dess paru aux éditions des Braques, je crois. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Henri. Merci d'être venu de Suisse pour la librairie francophone. Vous qui êtes si rare, vous êtes un peu notre Père Noël avant l'heure. Merci beaucoup.
Ben oui, c'est un plaisir.
La semaine prochaine, d'ailleurs, le Salon du Livre de la Presse Jeunesse ouvre ses portes mercredi en France à Montreuil. C'est l'un des plus gros salons pour la jeunesse au monde. Et il y aura beaucoup, beaucoup d'auteurs. On voulait le signaler avec la présence d'Henri Dess aujourd'hui. Merci à vous. Dans quelques instants, on reçoit Ali Becher, grand écrivain tunisien des éditions Elisabeth, qui a un peu carte blanche aujourd'hui dans cette émission. Avant cela, voici le chanteur Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens, justement, c'était l'année dernière, en 2016. Voici un extrait de son nouveau projet musical dans la librairie francophone.
D'Orient, sous les tuves, les fumées d'encens, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes, hume les fleurs, leurs senteurs navrantes, laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée des vies, prends des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles devant, deviens voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refais surface, loin des fous, la fine force et faiblesse, fais de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, ougan, empereur de brigands, maquin d'albois, caïman, écris des récits ou te cogner à tes récifs, une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lignes, fuis l'ennui des villes libides si ton cœur lui aussi s'abîme. Yeah. Un jour, je me bats, hasta la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat. Rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas. Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux. Des regards transparents qui me noient à petit feu. La zone est de mépris, la vague est d'indifférence. La foule est un zombie et je vogue à contresens. Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune, que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas.
Gaël Faye, tôt le matin, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La librairie francophone avec la chronique des libraires, tous ensemble pour leur coup de gueule et leur coup de cœur. La France, ici Radio France Fête le Livre, est représentée par Grégoire Courtois. Et un coup de gueule pour commencer, Grégoire.
Ouais, traitez-moi de snob ou de réactionnaire, comme vous voulez, mais j'ai jamais
snob,
supporté.
Snob, espèce de snob.
Mais ouais, mais je sais
ça
bien.
Ça me fait du bien, ça me défoule.
Je n'ai jamais supporté les livres avec coffret, avec des objets à l'intérieur. Et là, je pense que j'ai atteint le summum de la consternation avec Larousse qui nous propose donc un petit livre de 48 pages assorti de son lance-croquette pour chien. Mais c'est pas une blague, c'est vrai, ça existe. Et donc voilà, je me suis dit, mais comment on peut mettre ça dans une librairie?
Un lance-croquette? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un petit pistolet lance-croquette, voilà, qui vous permet d'amuser votre chien ou votre chat d'ailleurs. Hein, c'est
réversible. Le chat du rabbin, dommage que Joanne soit parti. On lui aurait filé le lance-croquette et autre jeu malin, ça s'appelle.
Ah oui, je sais bien.
Aux éditions Larousse.
Je sais.
Merci Grégoire. Ouais, le Canada, à présent, avec le Canada avec qui on a un gros problème de liaison, gros problème technique, et c'est Dany Laferrière qui remplace notre libraire québécoise. Vous êtes libraire aujourd'hui dans la librairie francophone. Dany, coup de gueule ou coup de cœur?
Coup de cœur, bien sûr.
Allez-y.
Mais d'abord, je partage le coup de gueule à propos de ce livre. Mais pour le coup de cœur qui est à l'intérieur d'un coup de gueule, le coup de gueule, c'est l'hiver. L'hiver arrive au Canada, et quand je suis arrivé à Montréal, et j'ai vu arriver l'hiver par un livre qui s'appelle « L'hiver de force » de l'écrivain Régent Duchamp.
Eh oui.
Et j'ai demandé à voir qui c'était, et je ne l'ai plus jamais revu parce qu'il était invisible.
Oui.
Il ne se montrait presque à personne, mais son œuvre, elle, était là. Donc on peut bien se cacher, mais son âme apparaît.
Exactement. Régent Ducharme, que vous pouvez retrouver dans la librairie francophone, c'était la semaine dernière, depuis Montréal, au Salon du Livre, avec Robert Charlebois. On lui a rendu hommage au cours de cette émission. Voilà, vous pouvez la réécouter, évidemment, sur Internet. Claire Renaud est en Suisse. Un petit coup de gueule qui s'adresse à la presse helvétique, Claire.
Oui, un peu comme un constat, si vous voulez. En fait, la presse, elle adore parler de ce qui ne va pas, et évidemment, entre autres, des librairies indépendantes qui ferment. Le comble, lorsqu'on lit cette même presse, qui, je précise, souffre aussi, c'est de voir que les articles ne mettent en lumière, par leurs citations, interviews ou même pubs, que les grandes enseignes et très rarement les petites. Alors j'ai un petit appel à faire. S'il vous plaît, ne parlez pas que de nos malheurs. Nous avons le feu sacré pour notre métier que nous adorons et défendons.
Il faut défendre les librairies indépendantes. Message à la presse helvétique et message aussi à la presse francophone. Défendez les libraires indépendants.
Il faut défendre les libraires et les librairies parce que c'est magnifique.
Et oui.
Dès que j'arrive dans une ville, je vais toujours à deux endroits à une librairie et au cimetière. Hey. C'est les seuls endroits où les morts parlent. Si vous entrez dans une librairie, vous ouvrez n'importe quel auteur mort depuis des siècles et vous l'écoutez.
Après Johann Sfar, on conclut avec un coup de cœur BD, Annick Dor en Belgique, pays de la BD. Allez-y Annick.
Oui, voilà pour un album très personnel, très singulier. Alors on le doit à Max de Radiguès et ça s'appelle Bâtard. Alors c'est une cavale, hein, c'est celle d'une mère et d'un jeune garçon, ils sont tous deux braqueurs, ils doivent sauver leur peau. Et derrière un dessin, somme toute réaliste, il y a une foule de sentiments qui se glissent et c'est vraiment une très très belle réussite.
Bâtard de Max de Radiguès aux éditions Casterman, merci Annick.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Ali Bêcheur.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un grand écrivain tunisien. Vous publiez un livre qui évoque l'histoire politique en Tunisie. C'est l'un des thèmes de ce nouveau roman. Vous êtes publié chez Elizade. Alors, dans votre roman, Ali Bêcheur, Les lendemains d'hier, vous portez une réflexion sur le temps, une réflexion sur la figure paternelle, sur la grande histoire tunisienne. L'histoire de votre pays semble avoir déterminé votre destin familial, mais aussi votre destin personnel.
Ah oui, vraiment, oui. Moi, ce qui me frappe, ce qui m'a toujours frappé, c'est comment l'histoire qui est décidée par quelques-uns, par des décideurs, quelques-uns, qu'on connaît pas ou qu'on connaît de loin, qu'on connaît pour avoir vu à la télévision, mais de loin, peut infléchir la vie des individus, peut bouleverser la vie des individus, peut tuer aussi.
Ça a été le cas d'ailleurs de Dany Laferrière. La politique de votre pays a considérablement influencé votre vie, vous aussi.
Ah oui, ma vie et la vie de tous ceux qui m'entouraient à cette époque. Oui, c'est déterminant sur la vie individuelle. Ouais.
Alors, il y a de très beaux passages, Ali Bêcheur, dans votre livre sur la relation père-fils. Le père, dans le roman, qui est un homme distant, un homme de pouvoir, intelligent, mais qui attend beaucoup de son fils. Et du coup, il y a cette notion de respect qui semble plus importante que l'affection.
Ben, c'est-à-dire que c'est de l'affection, mais que c'est de l'affection qui est dissimulée. C'est de l'affection qui passe sous la pudeur. Et il y a un concept, je peux le dire en arabe, ça...
Oui, bien sûr.
Peut-être qu'il y a des extrêmes droites.
Non, ne faites pas comme Johann Sfar. Non, vous pouvez parler en arabe, il n'y a pas de problème, allez-y.
C'est le concept de Hashma. C'est un concept extrêmement complexe. Et on ne peut pas le traduire en français parce qu'il n'y a pas l'équivalent. C'est en même temps la pudeur et c'est la honte. Barthes disait les civilisations du Maghreb sont les civilisations de la honte. Et il avait parfaitement raison. Les civilisations de l'Occident sont les civilisations de la faute et les civilisations du Maghreb sont les civilisations de la honte. Donc il y a à la fois honte et pudeur. Mais pas seulement honte de ne pas montrer ses parties intimes, évidemment, mais honte de la parole aussi. On n'exprime pas ce sentiment. On ne dit pas à son père « je t'aime, papa ».
Oui, c'est ça, c'est
un
pudeur.
Un père ne dit pas à son fils « je t'aime », etc.
Alors, vous parlez de la honte, Ali Bêcheur. Il y a aussi cette pudeur comme ça qui est sous-jacente dans votre roman parce que vous parlez un peu comme dans le roman de Dany Laferrière des premiers émois sexuels. Le désir qui devient lui aussi un enjeu colonial, un enjeu politique parce qu'il est question de la colonisation dans ce livre. Vous racontez toute l'histoire de la Tunisie, la grande histoire, et vous racontez que le petit arabe à l'époque ne doit pas désirer une française.
Exact.
Et ça change la perception des émois sexuels, ça.
Absolument. Mais alors, c'est marrant que vous évoquiez cette question, c'est parce qu'il y a un clivage qui se produit à la puberté. Avant la puberté, il n'y a aucun problème. Les petits arabes jouaient avec les petits français, les petits juifs, les petits italiens, parce qu'il y a pas mal d'italiens, il y avait pas mal d'italiens en Tunisie. Et j'aime bien cette phrase. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait que des copains. Mais le clivage, il intervient au moment de la puberté. Au moment de la liberté, là, ça devient sexuel. Ça devient endogène.
Et ça change tout, ça?
Et ça change absolument tout. Parce que moi, j'ai connu des jeunes filles avec lesquelles on était à tu et à toi, quand on était petit, quand on était gamin, on jouait ensemble, etc. Et qui ne me connaissaient plus. Non, mais je dis dans le bouquin que tout le monde a le droit de bander, mais il faut bander dans son camp.
Bon, en tout cas, c'est un roman très dense, très érudit, que l'on imagine aussi très personnel. On apprend énormément de choses sur la Tunisie, sur l'histoire tunisienne. On va donner la parole à l'un de nos libraires qui a lu votre livre, Grégoire Courtois. Vous connaissez bien l'œuvre d'Ali Becher.
Oui, oui, j'ai retrouvé avec plaisir donc, la plume d'Ali Becher, qui est vraiment superbe, flamboyante, et là, dans quelque chose qui est effectivement très touchant, très nostalgique. Moi, j'ai trouvé ça beau. En même temps, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire tunisienne, parce qu'on la vit vraiment de l'intérieur avec ce livre. Et puis, ce que vous n'avez pas encore évoqué, c'est ce choix. Il y a un moment, il y a des passages très très beaux sur le choix de la langue française et sur cette dualité, sur le fait que Ali Becher ne veut pas choisir entre l'arabe et le français. Et il y a d'ailleurs une très belle phrase qui dit ça dans votre livre, qui est « Les mots sont des oiseaux, ils survolent les frontières ». J'ai trouvé ça superbe.
Les mots sont des oiseaux, ils survolent les frontières. On va terminer avec cette phrase. Merci beaucoup, Ali Becher.
Merci à vous.
Merci infiniment, Ali Becher. Les lendemains d'hier, votre nouveau roman est paru chez Elisade, comme celui de Yamen Manaï tout à l'heure, La main ardente, deux livres sur la Tunisie que l'on vous conseille sans réserve. Merci beaucoup, merci Dany Laferrière.
Merci. Oui.
On vous retrouve tout le week-end à Radio France Faites le Livre, avec notamment une rencontre avec Hélène Carrère-Dancausse de l'Académie française. Là aussi, c'est une rencontre très rare, inédite, exclusive. Pour l'événement Radio France Faites le Livre, rencontre que j'aurai le plaisir d'animer dimanche à 16h au studio 105. On sera tous les trois.
Oui, c'est en parfait. Intimité.
Là où nous sommes d'ailleurs, au studio 105, même endroit. Ouais. Merci à vous, merci à Lojo, merci beaucoup Ali Becher, Yamen Manaï, Henri Dess, merci encore. Merci à vous, public de Paris. Vous pouvez vous applaudir avec les lycéens des lycées Joliot-Curie à Nanterre. Ouais. Le Corbusier à Poissy, Eugène Hénaff à Bagnolet et Henri Vallon à Aubervilliers, Condorcet à Paris. Voilà. Un peu d'auto-congratulation n'a jamais fait de mal à personne. Merci à vous, merci beaucoup, merci.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici Cheval Rex avec un extrait de L'Adversaire. Cheval Rex, L'Adversaire, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel, avec Éric Boisset, Célia Dufour et Manon Houssin. Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret, avec Béra Lou de Ride et Christophe Magère en France. Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse. René Mikils, avec Valérie Elput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, les 75 ans de Michel Tremblay à Montréal et le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française à Dany Laferrière.
Tiano Mononembo.
Exactement, et ils seront là, entre autres. Merci au public de Paris. Merci beaucoup. Radio France, Faites le Livre. C'est tout le week-end. Bon week-end à vous. Salut, à bientôt.